on commence ce journal avec une vaste étude parue dans Nature, Ecology and Evolution. Le réchauffement climatique réduit la diversité des pollinisateurs.
On connaît les effets des pesticides sur les abeilles, mais on mesure moins ceux du dérèglement climatique. Une équipe européenne a réuni la plus grande base de données sur 2000 espèces de pollinisateurs. Des abeilles, mais aussi les mouches, les papillons, les coléoptères. Les chercheurs ont regardé de plus près l'évolution des périodes de vol entre 1960 et 2016 dans 20 pays en Europe. Et ils ont comparé ces données avec celles des températures et des hausses des températures. On constate que ces insectes avancent leur date d'activité en moyenne de 6 jours. Ils volent plus tôt, début juillet plutôt que mi-juillet en France, et ils volent moins longtemps en moyenne. Au cours des 60 dernières années, leur activité s'est réduite. Cet article prouve que le réchauffement climatique est une menace de plus pour les espèces pollinisatrices. François Duchesne est doctorant au Musée d'Histoire Naturelle à Paris. Il est le principal auteur de cette étude.
Pour l'instant, il y a une bonne nouvelle quand même dans cette histoire, c'est que les pollinisateurs ont avancé leur période d'activité à peu près de la même façon que les plantes ont avancé leur période de floraison. C'est-à-dire que les insectes vont toujours trouver des fleurs pour se nourrir et les fleurs vont toujours trouver des pollinisateurs pour disséminer leur pollen. Mais ce qui a changé surtout, les effets négatifs qu'on met en avant dans notre étude, ce sont que les pollinisateurs ne s'arrangent plus de la même façon le long de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont moins synchrones. Ils volent moins ensemble, puisque les premiers pollinisateurs, ceux du début de la saison, ont beaucoup avancé leur période de vol. Ceux de fin de saison ont moins avancé leur période de vol. Et ils volent moins longtemps, du coup, ils sont moins ensemble. Et donc ça va diminuer la quantité de pollinisateurs disponibles à un instant donné pour les plantes. C'est une baisse de la diversité des pollinisateurs disponibles. C'est-à-dire que, par exemple, au 10 juillet en France, si on avait 1000 pollinisateurs qui étaient actifs à cette période-là il y a 100 ans, à l'heure actuelle, on n'en a plus que 900. Donc on a une baisse, par exemple, mi-juillet, de 10% de la diversité disponible pour les plantes. Et une crainte pour nous, c'est que la manière dont les communautés de pollinisateurs sont arrangées actuellement le long de la saison les rend plus sensibles aux extinctions. Or, on est dans une période de fort déclin des pollinisateurs. Et du coup, ça pourrait entraîner des effets qu'on appelle synergiques, donc qui viennent s'ajouter à d'autres effets négatifs qu'on observe déjà. Aujourd'hui, il y a un déclin des pollinisateurs qui est entraîné par bien d'autres facteurs, dégradation des habitats, pesticides, etc. Mais ce facteur climatique, il peut venir aggraver la situation, en quelque sorte.
Et on passe au bref. Le ministère de la Santé étend aux jeunes hommes la vaccination contre le papillomavirus.
Et nous en parlions récemment lors de notre émission Papillomavirus à cause des garçons. Le HPV, ce virus sexuellement transmissible, est responsable de nombreux cancers, dont le cancer du col de l'utérus qui cause près de 1100 décès chaque année. Les adolescentes peuvent déjà être vaccinées, mais la couverture vaccinale reste trop faible pour endiguer l'épidémie. La vaccination des filles et des garçons est déjà pratiquée dans de nombreux pays européens, et ce n'est pas inutile de le rappeler, avec un vaccin fiable. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a donc donné son feu vert. La mise en place est prévue pour l'été 2020.
Selon une prépublication sur Archive, une intelligence artificielle de Facebook peut désormais résoudre des problèmes mathématiques de niveau universitaire.
Oui, et selon ce papier, en moins d'une seconde. Cette prépublication montre que les réseaux de neurones et que le deep learning appliqué aux maths peuvent être performants. Deux chercheurs du Facebook AI Research ont entraîné leur système d'IA sur des dizaines de millions de problèmes de calcul. Ils l'ont ensuite testé sur 500 problèmes mathématiques différents. L'IA était capable de trouver des solutions avec une précision de 98%. Elle a aussi été très performante pour résoudre des équations différentielles.
Selon une étude parue dans Science, si les mots peuvent être traduits dans une autre langue, ce n'est pas forcément le cas pour les émotions.
Et ce sont les conclusions de cette énorme étude sur le langage affectif humain. Le mot peur, par exemple, ne décrit pas nécessairement la même émotion en swahili, en vietnamien ou en portugais. Une équipe germano-américaine a réalisé la plus grande cartographie du vocabulaire affectif. Sur les 6000 langues parlées dans le monde, 2474 langues ont été examinées. L'étude montre que des évolutions sémantiques de l'émotion apparaissent dans 20 grandes familles linguistiques et le papier fait aussi apparaître des universalismes. Par exemple, toutes les langues distinguent les émotions selon si elles sont agréables ou désagréables.
Merci beaucoup Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le Journal des Sciences. Vous pouvez retrouver comme tous les jours les informations évoquées dans ce Journal des Sciences, mais aussi celles qui seront abordées dans l'heure qui vient, en suivant notre fil Twitter @laméthodefc ou encore en vous rendant sur notre site franceculture.fr.